Chers amis, c'est un plaisir de vous voir tous ici ce soir, aussi nombreux, même si ça fait déjà assez longtemps que je ne suis pas revenu à l'Assemblée ici. Ça ne nous empêche pas de penser à vous et de prier pour vous. Je vous remercie aussi pour les prières pour mon épouse. Le Seigneur a mis sa bonne main, elle va mieux depuis une ou deux semaines, ce dont on est reconnaissant. Ce soir, on va montrer des diapositives sur ce que la Bible appelle le tabernacle. Mais avant qu'on voit les diapositives et que je donne quelques mots d'explication, on va montrer que le plus important, c'est la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole de Dieu qui a la priorité. Ce que Dieu dit est plus important encore que les commentaires qu'on pourrait apporter, faire. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, d'abord dans le livre de l'Exode, au chapitre 25e, s'il vous plaît. Exode 25. On va lire à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes peintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier peintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Ça, c'est important à relever. « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Ensuite, on va lire au chapitre 27 encore. Chapitre 27 et au verset 9. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs triangles seront d'argent. Du côté de l'occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 et de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées. les toiles seront de fin lin, retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. On va lire maintenant, vous pouvez garder la place, là, mais on peut lire maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. On va lire au chapitre 8, au verset 1er. Hébreux 8, au verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, ou grand prêtre, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Jusque-là. Maintenant, au chapitre 10, encore un dernier passage. Chapitre 10 des Hébreux, au verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Jusque là. Le sujet du tabernacle est très important. Il suffit de remarquer que pour décrire la création, il n'y a rien que deux chapitres dans la Bible. Genèse 1 et Genèse 2. Deux chapitres pour nous dire comment Dieu, par sa parole, a créé le monde. Beaucoup de nos semblables, beaucoup d'hommes de science surtout, sont fascinés par l'idée de savoir comment le monde est venu à l'existence. Deux chapitres seulement, sur ce qui captive pourtant beaucoup, beaucoup d'humains, beaucoup de personnes. Et puis sur le tabernacle, bien, il y a depuis le chapitre 25 jusqu'au chapitre 40 de l'Exode. Ça veut dire 15 chapitres moins 2, ce qu'il y a le veau d'or, 2 chapitres. Mais un grand nombre de chapitres. Donc, on voit là déjà l'importance que cela a aux yeux de Dieu. Ce qui est important aux yeux de Dieu n'est pas nécessairement ce qui est important aux yeux des hommes. Je vais te la montre. Je vois pas là, c'est Dieu. Une autre raison, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont arrivées, comme c'est bien marqué, et qui ont le but de nous faire comprendre des choses abstraites, par des images, par des choses concrètes, des choses qu'on peut voir, qu'on peut s'imaginer, par des événements qui nous sont décrits, comme quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu nous fait comprendre des vérités spirituelles très importantes. Si vous comprenez, si vous n'avez jamais entendu parler de ces choses, ne soyez pas surpris si vous ne comprenez pas tout la première fois. On va essayer ce soir, avec l'aide de Dieu, d'avoir quelque chose de profitable, aussi bien pour les enfants, ici en avant, pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, ou peut-être jamais lu l'Ancien Testament, du moins, puis aussi pour ceux qui ont déjà vu et étudié le tabernacle. Certains livres qui en parlent, il y en a même qui ont eu l'occasion de voir une présentation semblable, comme les diapositives qu'on a ce soir. Donc, que le Seigneur nous aide pour que tout le monde y trouve son compte et quelque chose de profitable. Quand on parle de tabernacle, évidemment, les gens, ils pensent à l'église catholique. Ce qu'on appelle le tabernacle, c'est une espèce de boîte fermée avec une porte clé où est-ce qu'on conserve les hosties consacrées. Évidemment, ça n'a rien à faire avec ça. C'est le même mot, mais ça, il n'y a aucune relation du tout. Il s'agit de mettre ça au point. Le mot tabernacle est un peu curieux, mais ça veut dire une tente. Du reste, le tabernacle lui-même, dans l'Ancien Testament, cette tente que Dieu avait demandé de construire, elle est appelée aussi la tente d'assignation. Et qui veut dire, comme on parlerait aujourd'hui, la tente de la rencontre. C'est là que Dieu pouvait rencontrer l'homme. Là où Dieu se rencontrait avec les souverains sacrificateurs, avec les sacrificateurs et avec Moïse. Sacrificateur, ça veut dire prêtre. Souverain sacrificateur, c'est le grand prêtre. Ça veut dire la même chose. Sacrificateur est relié avec sacrifice, comme prêtre, à un sacerdoce. C'est-à-dire, c'était des intermédiaires, des hommes qui représentaient Dieu vis-à-vis du peuple et qui représentaient le peuple vis-à-vis de Dieu. Et celui qui était le chef des sacrificateurs, c'était le souverain sacrificateur ou grand prêtre. Maintenant, pour comprendre tout ça, pour ceux qui ne sont pas familiers, il faudrait dire d'abord que l'Ancien Testament, vous savez que la Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est avant Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, c'est les Évangiles, les Actes des Apôtres, les Épîtres et l'Apocalypse. Donc, excusez, les 4/5 de la Bible sont en relation avec Israël, le peuple juif, que Dieu a appelé, quand il a appelé Abraham. Vous savez, quand on lit l'histoire dans la Genèse, on voit que très rapidement, l'homme est devenu idolâtre. Très 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 vite dans l'histoire. Il a abandonné la connaissance de Dieu qu'il avait au début. Et Dieu a choisi un homme, Abraham. Et lui, il était croyant, et il lui a dit, sors de ton pays, et va dans le pays que je te montrerai. Il habitait à Ur, en Chaldée, en Irak. Abraham était un Irakien, si vous permettez. Il faut les aimer, les Irakiens. Ainsi, Abraham était choisi de Dieu, ainsi que sa descendance. Et il est l'ancêtre du peuple d'Israël. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et Jacob a eu 12 fils. Et ces 12 fils ont formé les 12 tribus d'Israël. Et le peuple d'Israël, Dieu avait changé le nom de Jacob pour Israël. Et Jacob, vous vous rappelez que les frères de Joseph, qui étaient l'avant-dernier, Benjamin étant le dernier, Joseph a été vendu par ses frères en Égypte. et il était allé faire un message pour son père, et les frères de Joseph l'ont vendu par jalousie. Et Joseph a eu bien de la misère en Égypte. Mais au bout d'un certain temps, il a pu révéler des secrets, des rêves, des songes à Pharaon, et il est monté sur le trône. Et il a fait venir son père en Égypte, et avec ses frères, d'autres, leurs enfants, ils étaient 75 personnes. Puis en l'espace de 400 ans, ils sont devenus un grand peuple de 600 000 hommes de guerre, ça veut dire à peu près 2 à 3 millions de personnes. Et au début, ça allait bien en Égypte, mais avec le temps, ils sont devenus les esclaves de Pharaon. Et Dieu a dû les faire sortir, comme il dit dans la parole de Dieu, à main forte et à bras étendus. Dieu est intervenu pour les sortir d'Égypte, grâce au sang appliqué sur les deux poteaux et le linteau de la porte, sur le cadre de la porte. Dieu les a rachetés par le sang de l'agneau. Ça aussi, ça nous parle de l'Évangile. Pour ceux qui sont pas sauvés parmi nous, on peut pas être sauvé par nos efforts. Si on veut être à l'abri du jugement, bien, il faut être placé sous le sang de l'agneau. L'agneau qui est le Seigneur Jésus. Vous savez, l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Ceux qui ont déjà été à l'église, ils savent, même à l'église catholique, on appelle Jésus l'agneau de Dieu. Ainsi, Israël a été délivré de l'Égypte. Dieu a ouvert pour eux la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et l'autre côté de la mer Rouge, ils ont chanté le cantique de la rédemption. Premier cantique de la Bible, en relation avec la rédemption. Un peuple racheté. Comme les vrais croyants aujourd'hui, ceux qui sont sauvés, sont aussi un peuple racheté. Il est temps, avant de se sauver, on était sous l'esclavage de Satan qui nous gardait captifs, on s'en rend pas compte. Mais c'est Satan qui mène. Et quand on est sauvé, on a été racheté par le sang. Et le Seigneur est intervenu en notre faveur. Et on est un peuple racheté par la puissance de Dieu. Parce que l'Évangile est une puissance. La Bible dit, Romains 1, verset 16, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On ne peut pas se sauver soi-même. Il y a des millions de personnes qui pensent se sauver par leurs efforts, par leur propre performance, par ce qu'ils font, par le bien qu'ils font ou le mal qu'ils font pas. C'est une illusion. On ne peut pas se sauver soi-même. Le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. On voit ça dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Ainsi, Israël a été racheté. De l'autre côté de la mer Rouge, ils ont chanté. Et un peu plus tard, alors Dieu appelle Moïse sur la montagne, le mont Sinaï. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est des lieux qui existent aujourd'hui. Il y a même les casques bleus de l'ONU avec des soldats canadiens qui sont allés dans ces endroits-là. Il y a où c'est un endroit très dangereux aujourd'hui, il y a des combats. Eh bien, là, Moïse sur la montagne, Dieu lui a donné la loi morale, les 10 commandements, la loi cérémonielle, ça veut dire la manière de s'approcher de Dieu. Et là, on arrive au chapitre 25 de l'Exode, qu'on a lu ce soir, où Dieu a voulu révéler à Moïse, lui a montré qu'il voulait habiter au milieu de son peuple. Dieu dit, vous me construirez un tabernacle et j'habiterai au milieu d'eux. Je vais ouvrir ma Bible à Exode 25. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le sanctuaire, c'est le tabernacle, appelé la tente d'assignation, le tabernacle, ou les différents noms qui le décrivent, comme là le sanctuaire. Donc, le peuple que Dieu a sauvé, il veut ensuite les rassembler et habiter au milieu d'eux. C'est la même chose aujourd'hui. Quand quelqu'un est véritablement sauvé, il n'est pas appelé à être un chrétien isolé, à être tout seul dans son coin, mais il est appelé à se rassembler avec d'autres croyants au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que le Seigneur Jésus veut habiter parmi son peuple. Dans Matthieu 18, 20, le Seigneur Jésus a dit, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Donc, le Seigneur Jésus, il est présent dans l'assemblée quand les croyants sont réunis. Alors, toutes ces choses sont des images. Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. On a dit au début que c'est important, d'après le grand nombre de chapitres qui nous en parlent, et la minutie de tous les détails, comment Dieu a précisé toute chose. Et même quand il n'a pas précisé, il y a une raison. Il y a une raison. Tout ce que Dieu a demandé de faire était important. On n'est pas autorisé de dire que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas importantes. Tout est important. Une autre raison pour laquelle l'étude et la compréhension de cet enseignement sur le tabernacle, pourquoi c'est important, c'est parce que ça nous aide à comprendre aussi des vérités spirituelles. Et dans le Nouveau Testament, ces choses sont reprises, il y a des références à cela. Par exemple, on ne peut pas vraiment comprendre l'Épître aux Hébreux sans avoir une petite idée, du moins, sinon une bonne compréhension de l'Ancien Testament, du service, du culte, comme on l'appelle, lévitique. Parce que les lévitiques, c'est le troisième livre de la Bible, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et les Bibles, vous voyez ça, ils l'avaient déjà appris à l'école du dimanche. C'est plus petit que les autres. Savez-vous? Quand on enseigne l'école du dimanche, on perd pas son temps. Les choses qu'on sait le mieux, les chants que je connais le mieux, c'est ceux que j'ai appris quand j'étais tout petit garçon. J'ai eu le privilège, moi-même, d'être élevé dans une famille chrétienne, des parents, c'était des croyants pieux qui aimaient le Seigneur, qui lisaient la Bible personnellement, qui étudiaient la parole de Dieu, qui on lisait la Bible en famille aussi, on était instruits dans ces choses, on allait à l'assemblée, on avait l'école du dimanche pour les enfants aussi, on avait des réunions d'évangélisation, des réunions d'édification, on avait le culte, le repas du Seigneur le dimanche matin. Mais ça fait pas de quelqu'un un chrétien. Moi-même, j'ai eu le privilège d'être enseigné dans ces choses depuis ma plus tendre enfance. Néanmoins, un jour, je me suis converti. J'ai reconnu devant Dieu humblement, la tête baissée, à genoux, que j'étais un pécheur perdu, que je méritais le juste jugement de Dieu, que si Dieu me donnait ce que je méritais, j'étais éternellement perdu en enfer. Et je me suis converti. J'ai compris que le Seigneur Jésus est mort pour moi. Je savais depuis toujours qu'il était mort pour nous. Mais dire il est mort pour moi et l'accepter personnellement, c'est une autre chose, évidemment. Ainsi, par la grâce de Dieu, depuis ce jour-là, je suis un enfant de Dieu. Je sais que j'ai la vie éternelle. On dit je sens, je sais. Donc c'est là pour montrer l'importance de non seulement savoir des choses, mais d'accepter le Sauveur que la Bible nous révèle. On ne naît pas chrétien, on ne vient pas au monde chrétien. Même si on est élevé dans une famille chrétienne, on a besoin d'être sauvé personnellement. Et plus vite on est sauvé, mieux ça vaut. Pourquoi? Parce qu'on est gardé du mal et du monde et de la corruption qui abonde de plus en plus dans le monde où nous vivons. Donc, l'étude du tabernacle est importante pour comprendre l'enseignement spirituel de la parole de Dieu, même du Nouveau Testament. L'Ancien Testament,
c'est l'arrière-plan du nouveau. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont expliquées. On ne peut pas vraiment savoir pourquoi c'était Dieu avait demandé ces choses. Mais à la lumière du nouveau, on comprend pourquoi. Parce qu'on voit la manière de s'approcher de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce soir. La manière de s'approcher de Dieu. Dieu nous a prescrit comment on peut s'approcher de lui. Pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Dieu est saint et nous sommes des pécheurs souillés. Ça, faut jamais oublier. Le péché a un double caractère. Non seulement c'est une offense face à la justice de Dieu, c'est une souillure face à la sainteté de Dieu. C'est toujours ces deux aspects dans la parole de Dieu. Alors l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu. Il y a un endroit où il peut rencontrer Dieu. On va le voir tout à l'heure. Donc, ça c'est très, 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 très important. Et aussi, on voit aussi certaines choses qui sont complétées dans le Nouveau Testament. D'autres qui sont abolies. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices sanglants qui, par anticipation, parlait du parfait sacrifice. Aujourd'hui, on n'offre plus de sacrifice sanglant, on n'a plus besoin d'offrir le sacrifice, en fait, pour être sauvé. Tout ce qu'on peut faire, on se rappelle de l'unique et parfait sacrifice que le Seigneur Jésus a offert sur la croix quand il est mort à notre place. Le sacrifice qu'on offre, c'est l'adoration, ça veut dire quand on le présente le fruit de nos lèvres qui bénit son nom, c'est aussi la bienfaisance au repas du Seigneur. Les chrétiens mettent de côté quelque chose qu'ils donnent au Seigneur pour son œuvre, son service, et puis nos corps, nos personnes, hors baissés. L'adoration, la bienfaisance, nos corps sont des sacrifices que le chrétien peut offrir. Mais on n'a plus de sacrifices comme l'Ancien Testament, puisque tous ces sacrifices, ils préfiguraient le sacrifice de la croix, là où le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. C'est ce qu'on va voir encore. Alors, on comprend, on peut voir un peu l'importance de ces choses. Pas des choses qu'on comprend d'un jour à l'autre, pas des choses qu'on comprend le lendemain qu'on est sauvé, mais c'est des choses dans lesquelles un chrétien apprend graduellement à mieux connaître Dieu. Alors, on va voir quelques diapositives, puis je ferai quelques commentaires avant de parler plus en détail sur la force. Là, vous avez le tabernacle. On appelle le tabernacle, proprement parlé, c'est la tente. Mais on appelle aussi le tabernacle tout l'ensemble qui était composé, donc non seulement de la tente, qui avait quatre différents tapis en dessus, on ne peut pas en parler maintenant, et qui avait le parvis. Le parvis qui était une clôture, si vous voulez, c'était fait en fin en coton retors, ou si vous voulez, du coton blanc. Et ici, il y avait des poteaux, voyez-vous, qui étaient en bois d'acacia, avec une base en airain, et un chapiteau en argent. Et les tribus d'Israël campaient dans un ordre que Dieu avait ordonné, pas n'importe comment. Et quand tout était démontable, et il le transportait, était transporté par les Lévites. Là, vous avez les tentes, les enfants d'Israël, comme on peut s'imaginer, voyez-vous. Chaque famille, chaque tribu, avait son endroit. Les sacrificateurs étaient ceux qui étaient le plus près, ici, de la porte. Voyez-vous, c'est marqué, c'est Aaron et ses fils. Était près de la porte. Et quand il déménageait, quand il voyageait dans le désert, bien, la porte était toujours du côté de l'Orient. Toujours. Parce que
dans la Bible, le salut vient de l'Orient. Au début de l'évangile de Luc, l'Orient d'en haut nous a visités. Ça veut dire le soleil levant. Soleil levant. Toujours du même côté. Le parvis, il avait 100 par 50 coudées. Une coudée, c'est 50 cm. Ou, si vous voulez, à peu près 22 pouces, ça veut dire pas tout à fait 2 pieds. Le parvis, les dimensions étaient données, 100 par 50, et il avait 5 coudées de hauteur. Ça veut dire 2,5 mètres. Déjà là, il y a un enseignement. Personne ne pouvait voir à l'intérieur sans passer par la porte. Il n'y a personne qui pouvait voir par-dessus sans entrer par la porte. La porte était un rideau, comme on va en parler un peu tout à l'heure et comme on va le voir tout à l'heure même. Donc là, on voit que ça nous symbolise le fait que on ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu, on ne peut pas vraiment comprendre les choses de Dieu sans passer par la porte. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, au verset 9? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. On ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu sans passer par la porte. Il y a plusieurs illustrations de cela. Même dans le lieu saint, on verra tout à l'heure, là, il n'y avait pas de fenêtre dans le tabernacle. La seule lumière, c'était le chandelier. De nouveau, ça nous parle que dans les choses de Dieu, on ne peut pas les comprendre avec notre propre intelligence. On aurait beau avoir une intelligence brillante, si